Il est 18h34, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous avons la joie de recevoir Laurent Dandrieux. Laurent, bonjour.
Bonjour, ami du soir.
Alors, je ne sais pas s'il faut que je vous représente, mais dans le doute, on ne sait jamais. Vous êtes donc critique de cinéma, essayiste, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Vous avez publié une dizaine de livres sur le cinéma, mais pas que, à noter sur le cinéma, parce que c'est le sujet du soir. Une cinémathèque idéale. C'est vrai que c'est pas mal, parce que si on ne sait pas quoi montrer à ses enfants, on pioche, on regarde, et c'est classé par âge. Et c'est plutôt juste. Bon. Dictionnaire passionné du cinéma, des portraits de Woody Allen évidemment, et puis on va rappeler le livre que vous publiez depuis quelques jours, quelques semaines, un entretien avec Mathieu Bock-Côté, le pessimiste joyeux, chez Fayard. Et donc, ce soir, nous avons décidé de consacrer une heure entière, non pas un livre, mais un homme, Clint Eastwood, qui vient de fêter donc ses 96 ans, comme vous me l'avez rappelé il y a quelques temps. Seconde, et pas 95, c'est l'avantage quand on est critique de cinéma, on connaît ses classiques et on sait compter. Et les rumeurs courent qu'il pourrait peut-être tirer sa révérence définitive au cinéma.
Je crois que c'est même officiel, ce qui n'est pas une surprise. Mais quand on a vu son dernier film, Juré numéro 2, on a bien senti que c'était un dernier effort pour terminer son œuvre sur une note positive et sur une note assez brillante.
Et donc, nous allons parler de ce monument, de cette carrière... 70 ans, ses films, Clint Eastwood acteur, Clint Eastwood réalisateur, et puis aussi ses prises de parole, ci et là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Laurent Dandrieux, quel est le film nul que vous aimez bien ?
Ah, le film nul que j'aime bien, ben il n'y en a aucun.
Le plaisir coupable.
Si je l'aime bien, c'est qu'il est bon. c'est un bon film, mais il est mis en scène avec les pieds. Je dirais Le Dîner de cons, parce que c'est très drôle, mais c'est pas du cinéma malheureusement. Voilà.
Quel est le réalisateur adulé et qui est le plus mauvais ?
Évidemment, Jean-Luc Godard. Sans aucune conteste possible.
Pire que Christopher Nolan ?
Ah, de très très loin.
On va rajouter des questions. Eastwood ou John Ford ? Qui a le mieux filmé l'Amérique, d'ailleurs ?
Pour moi, John Ford, c'est le plus grand. Et quand on demandait à Orson Welles quels étaient les trois plus grands cinéastes américains, il répondait John Ford, John Ford et John Ford. Et je suis assez partisan de cet avis.
Vous êtes plutôt Charles Bronson ou Yul Brynner ?
Alors, c'est pas très bien ce que symbolise dans votre question Yul Brynner, parce que Yul Brynner pour moi c'est le roi et moi, donc je vois pas très bien le rapport avec
les cheveux,
avec Clint Eastwood, et c'est certainement pas Charles Bronson, parce que je pense qu'il y a une apologie de la violence chez Bronson qui est assez étrangère, quoi qu'on dise, à Clint Eastwood.
Le film unanimement célébré que vous trouvez le plus surestimé ?
Forcément un film de Godard, à bout de souffle, qui devrait s'appeler La Poudre aux yeux.
Sophia Loren ou Claudia Cardinal ?
Laura Antonelli. Autre grande actrice italienne.
S'il ne fallait garder qu'un seul plan de cinéma ?
Ça, c'est absolument impossible. J'hésite entre le premier plan de... Parce que comme je suis normand, je vais avoir tendance à vous donner deux réponses au lieu d'une. Le premier plan de La prisonnière du désert de John Ford, avec cette silhouette qui s'encadre dans une porte qui s'ouvre sur l'horizon du désert américain et du Grand Canyon. Et peut-être le dernier plan des lumières de la ville de Chaplin qui tire toujours les larmes à chaque fois.
Vous êtes plutôt un rock ou technique art ?
Je n'ai jamais lu Technic Art, je ne lis plus du tout les Inrocks. J'étais un abonné de Fondation des Inrocks, qui à l'époque était un journal purement culturel, qui publiait que des articles plutôt excellents sur le rock, avec des photos absolument sublimes. Et malheureusement, ce journal n'est plus que l'ombre de lui-même, depuis que M. Pigas, entre autres, en a pris le contrôle.
Si je vous dis le cinéma français, c'est quoi ? Et vous avez un mot.
Atmosphère, atmosphère.
Bourville ou Funès ?
Plutôt de Funès qui compte un nombre de scènes inoubliables et de moments incroyables, plus je pense que Bourville.
Et s'il ne fallait garder qu'un seul film de Clint Eastwood ?
Eh ben, j'en garderai deux, forcément. Qui seraient Mystic River pour la dimension tragique et Honky Tonk Man pour la dimension plus intimiste et plus tendre.
Et enfin, dernière question, est-ce que vous voyez un héritier?
Non, le cinéma est mort, donc il ne peut pas y avoir d'héritier. Non, j'exagère un peu, mais non, c'est clair que c'est pour moi, c'est le dernier. Enfin, la formule est évidemment idiote et galvaudée, mais c'est pour moi le dernier des géants, oui.
Merci Laurent Dandrieux. Eh bien, nous allons parler de ce géant. Première question, vous préférez Eastwood acteur ou Eastwood cinéaste?
Eastwood cinéaste, assez clairement. Eastwood acteur a un registre assez limité. J'adore Jim Carrey quand il se met à imiter Clint Eastwood et uniquement en prenant un visage totalement impassible, à ressembler comme deux gouttes d'eau à Eastwood, ce qui montre bien qu'effectivement, en dehors de cette impassibilité, voilà, c'est plus un acteur qui joue sur le côté impressionnant, la stature, l'autorité naturelle, comme a pu l'être dans un tout autre registre le Gabin de la deuxième partie de carrière, que sur la variété des registres ou la subtilité de l'interprétation. Comme réalisateur, il a, comme d'ailleurs je pense à peu près tous les réalisateurs, raté quelques films évidemment, mais il a fait un nombre de chefs-d'œuvre incroyables et avec pour le coup une variété de registres assez impressionnante.
Alors justement, c'est acteur, il a commencé par faire des petites séries, quoi, une série surtout, puis c'est mon Sergio Leone qui la révèle au monde avec la fameuse trilogie du dollar. Mais justement, qu'est-ce qu'a vu Leone que n'avait pas vu Hollywood, parce que je crois qu'il a fait 8 ans de série avant d'arriver au cinéma, donc personne ne l'avait repéré ou personne n'en voulait, ou pourquoi Leone ne voulait lui?
Alors je pense qu'il avait dû le voir et le repérer dans Rawhide, la série où Clint Eastwood tenait un rôle important. Après, je pense que justement, c'est cette impassibilité qui l'a intéressé chez Eastwood. C'est que ce cow-boy sans nom qu'on retrouve dans cette trilogie léonienne est un personnage totalement impassible, impénétrable, totalement mutique, pour lequel, pour le coup, les limites d'acteur de Clint Eastwood non seulement ne sont pas gênantes, mais sont presque un atout, je dirais.
D'ailleurs, faut savoir qu'à la base, Eastwood ne voulait pas forcément accepter le rôle que proposait Sergio Leone. Et c'est parce que le film était un remake du Garde du Corps de Kurosawa, dont Eastwood était fan, qu'il a fini par accepter. Donc ça s'est joué à peu de choses, en fait.
Il a failli rater
même
sa
si la
carrière.
Ressemblance avec oui, le Garde du Corps de Kurosawa est assez...
Un remake officieux.
Tout à fait.
Et alors, il y a un autre film. Alors, quand on dit Eastwood acteur, évidemment, on pense Sergio Leone, mais on pense également Inspecteur Harry.
Inspecteur Harry.
Et alors, l'Inspecteur Harry, là, pour le coup, ça l'a marqué à la culotte pendant quelques années.
Oui, je pense
l'image
que...
L'image fasciste, raciste, réactionnaire, tout le truc.
Voilà, je pense que c'est effectivement, si vous faites un micro-trottoir dans n'importe quel pays du monde et que vous demandez le film dans lequel a joué Clint Eastwood, qui vous vient spontanément à l'esprit, tout le monde va répondre l'Inspecteur Harry. Et c'est assez évidemment dommage, non pas que la série soit déplaisante, mais d'abord il n'en est pas l'auteur, à part un épisode il se contente de jouer, il n'a pas eu vraiment d'influence sur le scénario, et puis c'est une conception de la violence et du film d'action qui est très marquée par ce début des années 70 et qui est finalement assez éloignée de ce que Eastwood montrera sur la violence dans des films ultérieurs qui sont beaucoup plus personnels. Et du coup, cette quadrilogie l'enferme dans une forme de caricature de lui-même.
Et ensuite, il a continué... alors, on va plus longuement parler évidemment de Eastwood cinéaste, mais Eastwood cinéaste a fait jouer Eastwood acteur. Et est-ce que le Eastwood cinéaste a fait évoluer l'Eastwood acteur?
C'est une bonne question. Je pense que oui, dans la mesure où ça lui a permis de se donner des rôles ironiques et d'exprimer une dimension comique qu'on voit très bien dans un film comme Bronco Billy, où le personnage est à la fois très attachant, assez ridicule, en même temps un peu héroïque aussi. Je pense que cette dimension-là, il n'aurait pas forcément pu l'exprimer dans les films des autres, et de fait, à part quelques navets, on l'a pas du tout utilisé comme acteur dans ce registre-là.
Et c'est vrai qu'il y a aussi Grand Torino de mémoire au début où il joue le père qui grogne, mais vraiment, il grogne vraiment sur ses enfants, je crois. Messe d'enterrement de soit de sa femme ou une messe au
mariage. Ses enfants qui, comme cadeau d'anniversaire, lui offrent un téléphone avec des touches gigantesques comme s'il était devenu aveugle. Ce qui a le don de le mettre en fureur.
Alors, passons à Eastwood, cinéaste. Donc, il passe, si je me souviens bien, à la réalisation en 71 avec Un frisson dans la nuit.
Tout à fait.
Alors, peut-être rappelez-nous ce que c'est qu'Un frisson dans la nuit, ce que c'est. Quel est ce premier film d'Eastwood? Peut-être quand, si vous avez des idées, des anecdotes, comment il est passé à la réalisation?
Alors, en fait,
pourquoi ce film-là?
Eastwood, c'est un secret pour personne, est quelqu'un qui est très jaloux de son autonomie, de sa liberté, de son indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu très vite, aussi vite qu'il le pouvait, même si sa carrière a démarré tardivement, il a voulu avoir la maîtrise de sa carrière. Et donc, avant même de passer à la mise en scène, il a fondé sa société de production, Malpasso. Et dès ses débuts, il passait un temps fou, y compris quand il ne jouait pas sur les plateaux de tournage, pour apprendre de ses réalisateurs, de leur réussite et aussi de leurs erreurs. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par la mise en scène. C'est quelqu'un qui n'est pas scénariste, mais qui met sa patte sur les scénarios des autres et qui donc a un univers qui lui est propre, qu'il avait certainement envie d'exprimer par l'image, puisque c'est quelqu'un qui s'exprime assez peu, y compris dans la vie, par les mots. Et il disserte assez rarement, enfin, et assez brièvement généralement sur ses films. Et donc ce passage à la mise en scène était absolument inéluctable. Un frisson dans la nuit, c'est une presque préfiguration de Basic Instinct, mais en beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. C'est un film très, très, très maîtrisé. C'est un des rares films qu'il a énormément préparé en amont, alors que tous les gens qui ont travaillé avec lui ont dit qu'il aimait bien travailler très rapidement, parfois jusqu'à une forme de désinvolture. C'est quelqu'un qui visiblement s'ennuie assez vite et pense que les premières prises sont souvent meilleures que les suivantes. Il n'était pas très très sûr de lui, donc il a confié un petit rôle à Don Siegel, l'un de ses cinéastes fétiches, pour qu'il soit présent sur le plateau et puisse le conseiller. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, Clint Eastwood fait quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que au lieu de jouer le flic viril, redresseur de tort, il joue un personnage certes viril, mais qui va se trouver harcelé par une femme avec qui il a eu une affaire d'une nuit et qui aimerait bien que cette nuit se poursuive toute la vie et qui va véritablement en faire sa proie. D'ailleurs, Clint Eastwood avait auparavant comme acteur joué un film réalisé par Don Siegel qui s'appelait Les Proies, où il était aussi, il tombait dans un gynécée où les femmes lui faisaient subir les pires traitements. Donc c'est quelqu'un qui a été toujours soucieux de rompre avec son image, sa caricature, avec les clichés. Et je dirais que c'est un cinéaste qui a tourné à peu près toujours un film contre le précédent, pour modifier l'ambiance, la perception de son œuvre. Dans une interview, je crois, dans les années 90, où on lui demandait quel était son message sur la violence, justement, il a dit « Moi, dans mes films, il n'y a pas un message, mais il y a des messages successifs. » Et en fait, quand je m'intéresse à un thème, j'essaye d'en présenter toutes les facettes d'un film à l'autre, ou parfois à l'intérieur du même film. Et finalement, il laisse, évidemment, même si lui a sa vision propre, mais c'est quelqu'un qui laisse le spectateur juger à la fin et faire le tri entre ces facettes successives du problème.
Marc Obregon.
Oui, pour revenir un peu à sa mise en scène et à son style, on le compare souvent à John Ford ou à Carpenter, dans une moindre mesure, parce que ce sont des cinéastes qui ont un style transparent, un style qui ne se voit pas. Malgré tout, est-ce que pourriez nous dire un peu, pour vous, quel est le style de Clint Eastwood? Quelle est sa mise en scène? Est-ce qu'on peut reconnaître un plan de Clint Eastwood au premier abord?
Au premier abord, peut-être pas, parce que je pense que vraiment les cinéastes pour qui c'est possible se comptent peut-être sur les doigts de la main. Il y a évidemment un style qui domine, qui est un style C'est pour ça qu'on l'a rassemblé, on l'a rapproché de John Ford, qui est un style qui est un style, je dirais, un peu en dedans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui préfère toujours en faire moins que trop. Je pense qu'on peut le reconnaître dans certains plans par un goût pour la fluidité. Il y a, c'est un cinéma qui coule un peu, non pas comme un fleuve puissant, mais comme comme une rivière mystique peut-être parfois. Effectivement, la sobriété, la simplicité, une émotion qui est toujours disquette, qui est toujours contenue et qui est toujours teintée de d'ironie. Ça, je pense que l'ironie, le recul par rapport à lui-même, par rapport à son propos, par rapport à ses propres films. Et ses propres récits, c'est vraiment une caractéristique de d'Eastwood. Après, la différence avec les cinéastes qu'il vénérait, comme Ford, Hawks ou Walsh, c'est que, comme tous les cinéastes, il est aussi imprégné de son époque, et donc son cinéma, et notamment parce qu'il s'est beaucoup intéressé au polar et au western, est un cinéma beaucoup plus... où la violence est beaucoup plus présente et beaucoup plus explicite que dans ces classiques où elle se limitait à quelques bagarres homériques et à quelques coups de feu qui ne laissaient jamais de traces d'hémoglobine. C'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus direct chez Eastwood, évidemment.
Mais toujours avec une épure qui est justement très, très Kurosawa, justement. Il y a ce côté un peu japonais, moi, je trouve, dans son, parfois dans sa façon d'appréhender la scène d'action, notamment.
Pourquoi pas,
ouais. Mais dans ses yeux. Rémi Carlu.
Oui, bah vous parlez de la violence, justement. Quels sont les grands thèmes de son œuvre cinématographique, les grands sujets sur lesquels il a médité à travers son cinéma?
Alors, je pense qu'effectivement, la violence, c'est un des grands sujets qui le travaille. D'abord, d'une manière très marquée par l'esprit de l'époque, c'est-à-dire c'est ce début des années 70 où il y a une violence qui est assez ludique. Et donc, l'inspecteur Harry va aligner les cadavres sans trop de scrupules, puisque ce sont des méchants. Et après tout, tuer un méchant, c'est pas très grave. Et donc, voilà, on accumule les morts sans trop se poser de questions morales. Et dans des interviews plus tardives, Eastwood a un peu regretté cette première phase de sa carrière en disant que bon, il était temps au contraire de se poser des questions morales à propos de la violence. Je crois que ce qu'incarne d'ailleurs aussi l'inspecteur Harry, la violence pour Eastwood, c'est toujours un pis-aller pour rendre justice aux victimes. Sa préoccupation principale, c'est rendre justice aux victimes et leur rendre cette dignité que parfois l'impunité des coupables leur a ôté. Et d'ailleurs, enfin voilà, l'inspecteur Harry est vraiment typique de cette révolte des années 70 d'une majorité silencieuse américaine qui n'en pouvait plus de voir la gauche américaine, pour faire vite, s'intéresser plus aux droits des coupables qu'aux droits des victimes. Ensuite, je pense qu'au fil des films, il va affiner cette réflexion, et surtout il va s'intéresser aux traces laissées par la violence, c'est-à-dire que la violence ne blesse pas seulement et ne meurtrit pas seulement les corps, mais elle meurtrit aussi les âmes, et pas seulement des victimes, mais aussi de ceux qui la commettent. Et on voit bien que c'est quelque chose qui abîme l'être et qui laisse des traces profondes. Je pense que ça, c'est un de ses grands thèmes. Ensuite, il y a toute une réflexion sur ce qu'est l'héroïsme. Alors, une réflexion qui est toujours difficile à résumer chez Eastwood, parce qu'il n'y a pas de, comme il le dit lui-même, il n'y a pas de message. Ouais. Donc, ce sont des thèmes qu'il aborde, mais sans dire lui-même jamais vraiment quelle est sa vision de l'héroïsme. Il a à la fois une fascination pour les héros, il a aussi une fascination pour les losers magnifiques. Il y a ce thème du rêve, accomplir ses rêves, mais qui traite d'une manière finalement assez peu américaine. C'est-à-dire que pour lui, l'important n'est pas d'accomplir ses rêves, mais simplement d'y être fidèle tout au long de sa vie. Et si à la fin on a tout raté, qu'on n'a jamais réussi à enregistrer le disque qu'on avait rêvé d'enregistrer, ou si on est juste un cow-boy de pacotille comme dans Bronco Billy, c'est pas grave, on a vécu selon son rêve, on a vécu selon ses propres valeurs, ses propres principes. Et je pense que si je devais peut-être définir le thème principal d'Eastwood, ce serait l'importance de suivre ses propres règles. non pas dans un sens individualiste où je fais ce que je veux et tant pis pour les autres, mais ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par une quelconque bien-pensance, une quelconque conformité sociale. Et la conformité sociale aussi, c'est un truc qui le rapproche beaucoup, à mon sens, de John Ford. Pour moi, une des choses les plus importantes chez John Ford, c'est le fait que les gens bien ne sont pas toujours des gens comme il faut, ou on s'en fout. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez Eastwood, c'est-à-dire que le héros du film peut être un alcoolique, un raté, un type qui a un caractère de chien, mais c'est quelqu'un qui, malgré cela, au moment cruciaux, va poser des choix qui sont les bons. Et il y a cet anti-moralisme chez Eastwood qui est mon avis, et cet anti-puritanisme qui le rapproche profondément de Ford.
Alors, si on revient dans sa filmographie, donc 71, Un frisson dans la nuit, 73, L'homme des hautes plaines, et donc là, Eastwood repart sur le western, et évidemment, bah, on pense, on dit, bon, plus que Siegel, Sergio Leone.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que c'est déjà dans L'homme des hautes plaines, il y a un western un peu décalé,
oui.
Un poil mystique, presque fantastique.
C'est vrai, et on retrouve cela dans L'homme des hautes plaines, on retrouve ça aussi dans Pale Rider, où finalement on a l'impression d'avoir moins affaire à un héros classique qu'à une sorte d'ange exterminateur envoyé du ciel pour soit désinguer les méchants, les punir, soit pour protéger les bons. Il y a encore dans ce premier western d'Eastwood une dimension baroque héritée de Sergio Leone. Ce qui est très frappant, c'est que ça se passe dans une ville que ce justicier rebaptise elle Enfer, et à la fin, il y a un plan sur le cimetière de cette petite ville, et sur les tombes, on note deux noms, Sergio Leone et Don Siegel. Et c'est un peu comme si Eastwood, avec ce plan, avec ces noms inscrits sur ces tombes, disait « Ok, je rends hommage à mes maîtres, mais maintenant je vais voler de mes propres ailes et je vais faire le cinéma que j'ai envie de faire, moi, Clint Eastwood. »
Et tu le perds, quoi.
Ouais, un peu ça.
Et il y avait encore cette... qui ressemblait un peu à Leone, cette histoire un peu de vengeance. Parce qu'il y avait un passif, et c'est pourquoi qui ne va pas du tout dans la même logique que Leone.
Non, parce que je pense que le cinéma d'Eastwood voit très bien que la vengeance est une impasse qui meurtrit les âmes, mais en tout cas c'est aussi une des constantes de son cinéma. Des constantes de son cinéma, c'est l'importance du poids du passé qu'on traîne toujours derrière soi et avec lequel on essaye dont on essaye plus ou moins vainement de se libérer et avec lequel il faut composer. Ça, on voit ça vraiment à travers tout son cinéma. C'est assez impressionnant.
Alors restons sur le western et on reviendra après parce qu'il a fait en effet une grande variété, parce que juste après L'homme de haute plaine, c'est Brizzy, puis après il y a La Sanction, mais on va rester sur le western, parce que c'est,
ouais.
Il est né avec le western au cinéma en tant qu'acteur, et puis...
Et il a quasiment maintenu le genre vivant à lui tout seul pendant
Exactement.
Quelques années.
Bah, jusqu'en 93, 92 ouais. De mémoire. Et donc après, c'est José Wells, Hors-la-Loi. Alors là, un de nos auditeurs explique le film inoubliable d'Eastwood, c'est José Wells.
C'est un de ses grands films, ça c'est évident, oui, oui.
Alors il est très daté. Vous voyez, vous le montrez à quelqu'un pour la première fois
clairement
aujourd'hui.
Un film des années 70.
Contrairement à L'homme de haute plaine, contrairement à Pale Rider, on est déjà en 86. Mais il est dans son montage, dans sa réalisation, c'est assez
étrange. Puis il y a quelque chose qui est très typique de ce cinéma des années 70, c'est le côté vagabondage. C'est un héros qui soit poursuit des gens, soit est poursuivi par d'autres gens, donc il se déplace en permanence, il fait des rencontres. Très surprenantes, qui n'ont pas forcément dont l'importance pour le scénario ne saute pas aux yeux à première vue. Il y a un côté j'allais dire quelque chose dont le terme m'échappe, c'est un roman picaresque, voilà. Mais avec moins de mouvement, quelque chose de plus méditatif qu'un roman picaresque, mais il y a ce côté vagabondage qu'on retrouve très souvent dans ce cinéma du nouvel Hollywood.
Ah oui, complètement, oui. Et là, on arrive ensuite à Pale Rider. Et alors, pour le coup, Pale Rider, on a le sentiment, alors c'est toujours en effet très clair-obscur chez Eastwood, mais on a le sentiment que là, il y a une vraiment dimension morale qui est assumée. Genre parce que c'est un pasteur, il repeint la ville.
Oui.
Et
puis surtout, il y a des références absolument explicites au livre de l'Apocalypse. Ce cavalier pâle, c'est évidemment un cavalier de l'Apocalypse. Donc, effectivement, c'est peut-être. Le film où la dimension mystique est la plus assumée chez quelqu'un qui, par ailleurs, ne semble pas, dans sa vie personnelle, manifester d'intérêt particulier pour les thématiques religieuses. C'est une forme de schizophrénie là, qui est assez intéressante.
Alors justement, c'est la question souvent, on dit qu'il fait des films chrétiens. Est-ce que Eastwood était
ce qu'il y a, c'est que,
protestant,
en fait,
catholique
pour moi, c'est vrai. Alors, il doit être d'une confession protestante quelconque, j'imagine, mais je crois vraiment que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas dans sa vie personnelle. Par ailleurs, le cinéma mondial, et quelle que soit la zone d'origine géographique du cinéaste, est peuplé de films qui sont des films chrétiens faits par des gens qui ne le sont pas. Je pense à Vivre de Kurosawa, qui est un film absolument évangélique, et d'ailleurs dont les références à l'évangile sont présentes dans les dialogues. Film qui est tourné la même année que Europe 51 de Rossellini, qui alors, lui est de culture catholique, mais n'est absolument pas catholique, qui fait un film complètement évangélique aussi, et on pourrait multiplier les exemples, parce qu'il y a tout simplement dans la culture occidentale, mais même maintenant aujourd'hui dans la culture mondiale, une imprégnation du christianisme qui est tellement forte qu'elle s'insinue, je dirais, dans les endroits les plus inattendus.
Il est 19h, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Laurent Dandrieu, nous parlons de Clint Eastwood parce qu'il a fêté ses 96 ans. Et puis, pour parler positivement des géants comme lui, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Et puis, ça donne toujours des idées de films à regarder. Et autant vous dire que l'actualité étant assez triste et assez chiante, autant revenir sur des classiques, des valeurs sûres. Mais vous savez qu'également, que c'est l'heure d'écouter un petit message, parce qu'on a besoin de vos sous-sous.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, on a besoin de vous, donc envoyez vos dons. Et donc, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Laurent Dandrieu. Ça tombe bien puisque nous parlons d'Eastwood, donc
de
cinéma.
Si vous voulez m'envoyer des dons aussi, n'hésitez pas.
Vous n'avez pas détourné l'argent de Radio Courtoisie quand même.
Non, non.
Et comme on parle cinéma, vous savez qu'également, c'est l'heure de la chronique cinéma de Marc Obregon qui va nous parler d'une poule.
Tout à fait. Le distributeur de la bataille de Gaulle n'ayant pas eu la politesse de nous montrer le film avant sa sortie, sans doute soucieux d'éviter que le bon général ne tombe entre nos sacs crochus de fascistes impénitents, je vais vous parler d'un film sorti la semaine dernière, bien loin des géographies ronronnantes. Il s'agit de Cocotte, film ludique et expérimental du roumain Gheorghe Pălfi, qui se targue d'être filmé à hauteur de poule. Alors Pălfi s'est fait connaître dans les années 2000 avec Taxidermie, film à sketch quasi muet et déjà d'une grande exigence plastique, film de formaliste et de satiriste, quelque part entre Marco Ferrari et Buñuel. Avec Cocotte, Pălfi poursuit son projet avant-gardiste qui est de mettre le cinéma dans les conditions primitives de son émergence. En filmant à hauteur de poule, il filme en fait à hauteur de Dieu. Le premier plan du film, qui rappelle étrangement le premier plan de Babylone de Damien Chazelle, autre grand film sur le cinéma primitif, est un gros plan sur un cloaque, d'une poule en train de pondre, sorte de cosmogénèse fécale qui interroge d'emblée le regard et la question du point de vue. Car à force d'être allaité aux infâmes séries télévisées, interchangeables, que les plateformes nous déversent dessus comme des pluies de crapauds, on en viendrait à oublier quel est l'objet du cinéma véritable. La question du cinéma, ce n'est pas tant ce qui est raconté, mais qui raconte. La question du point de vue est malheureusement oblitérée de plus en plus, à mesure que le cinéma devient le jouet des scénaristes et non plus le jouet des réalisateurs. C'est pourquoi Cocotte, malgré ses défauts, s'impose comme un retour du cinéma primitif, en questionnant constamment le point de vue, et donc la mise en scène, et donc le montage. En adoptant donc ce point de vue d'une petite poule noire qui chemine dans le monde cruel des hommes, depuis une ferme industrielle jusqu'à une ferme mafieuse où se pratique la traite des êtres humains, Palfi bâtit une sorte de conte moral qui pose la question de l'utilité même du cinéma, alors qu'il est en passe d'être regardisé par le marketing algorithmique. Adopter le point de vue d'un animal ne signifie pas forcément se mettre dans sa peau. D'ailleurs, comme par exemple Robert Bresson dans Rosa Balthazar, Palfi évite soigneusement le plan subjectif à hauteur de poule, lui préférant des plans d'ensemble et des mouvements de caméra plutôt amples. Il ne s'agit pas en effet de faire comme si le film était vu par une poule, mais de montrer, en travaillant notamment sur des variations du fameux effet Kouletchov, de montrer à quel point le cinéma, le montage, ne sont jamais que des artifices moraux, de parachever le fameux dialogue entre Jean-Luc Godard et André Bazin sur le fait que le montage est moral ou non, et de laisser voir ce que pourrait être un film dénué de ses artifices, un film objet, un film vu d'un point de vue quasi démiurgique, et qui serait celui d'une poule divinisée donc. C'est sans doute la raison pour laquelle le cinéaste a choisi de situer l'action en Grèce, peut-être comme une sorte de réminiscence du pays des métamorphoses divines, là où se situait notamment l'âne d'or du poète latin Apulée, première réflexion du pays sur la nature des hommes vue à travers le point de vue d'un âne. Si le divin s'éveille dans l'homme et dort dans la pierre, c'est bien dans l'animal qu'il a choisi de rêver. Et ce rêve, c'est peut-être le cinéma, vu ici comme une vaste entreprise de déconstruction du consensus collectif, pour épouser la vision de ce que pourrait être un cinéma holistique, un cinéma débarrassé enfin de sa pure nécessité scopique et qui mettrait à égalité l'homme et son entourage, dans une sorte d'embardée cosmique et radicale. Et tant pis pour Général de Gaulle.
Merci Marc Aubregon. Ce que j'aime bien avec Marc Aubregon, c'est qu'il voit des trucs que je vois jamais, quoi. Alors, Dieu à hauteur d'une poule, c'est quand même fascinant. Et en plus, ça m'a donné envie de le voir. Vous l'avez vu, cher Laurent, Cocotte?
Non, j'ai vu Pouic Pouic, mais qui est aussi une histoire de poule, mais pas Cocotte.
Mais ça, c'est pas filmé à hauteur de la poule.
Non.
Revenons à hauteur d'Eastwood. Parce que, bon, quand même, c'est autre chose qu'une poule. Donc, il y a quand même quelque chose de fascinant chez Eastwood quand on regarde sa filmographie, c'est qu'il est rare qu'il y ait 3 ans d'écart entre 2 films. Mmh. C'est plutôt 1 an et demi, et après en fonction des distributeurs. Voilà. C'est comment expliquer ce besoin, alors parce qu'il ne parle pas et qu'il s'exprime par l'image, comme tout cinéaste qui se respecte, mais ce besoin de filmer, et surtout de filmer aussi rapidement, vous l'avez dit, il ne s'embarrasse pas de faire 52 plans, voire 4000 km de pellicule à la manique. Tout va très vite à partir du moment où le film est annoncé, que le budget est bouclé. Finalement, il y a quelques mois, jusqu'au niveau de la sortie, et après ça dépend du bon vouloir des distributeurs, évidemment.
La question du temps est absolument centrale, et dans le cinéma, et dans la vie d'Eastwood. C'est quelqu'un qui a été révélé très tardivement. Il commence sa carrière de réalisateur en plus encore plus tardivement, et je pense qu'il a été très marqué aussi par la mort prématurée de son père qui est décédé de manière totalement inattendue à 64 ans d'une crise cardiaque, et je pense qu'il est hanté par l'idée qu'il faut se presser et qu'on n'a pas toute la vie devant soi. D'ailleurs, il y a souvent des scènes de poursuite à pied, d'ailleurs, dans le cinéma d'Eastwood, comme si effectivement le personnage essayait de lutter contre une espèce de course, de remporter une espèce de course contre la montre. C'est notamment le cas d'un film dont le titre m'échappe, mais où il a quelques jours pour innocenter un condamné à mort. Et c'est très frappant de constater que son troisième film, donc en 73...
Je crois que c'est jugé coupable.
Jugé coupable, oui, tout à fait. Son troisième film, donc en 73, c'est-à-dire 2 ans après le premier, s'appelle Breezy, est un film sur le vieillissement, puisque c'est l'histoire d'un cinquantenaire désabusé qui va tomber amoureux contre son gré, parce que à la base c'est plutôt elle qui tombe amoureuse de lui, d'une étudiante, et qui est complètement désemparée par cet écart d'âge dont il ne sait pas quoi faire. Et c'est quand même assez étonnant comme sujet d'un troisième film de quelqu'un qui n'a à l'époque que 45 ans. Et ce thème du vieillissement va vraiment marquer tout le cinéma d'Eastwood, que ce soit par exemple dans Quiconque Man, où effectivement le personnage est tuberculeux et il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps s'il veut enfin enregistrer le disque de country dont il a toujours rêvé, que ce soit même sur un mode burlesque avec Space Cowboys, où tout à coup on va chercher des vieux papis parce qu'ils sont les seuls à connaître le plan du satellite russe qui menace de s'effondrer et que voilà, il faut donc les envoyer des septuagénaires dans l'espace. C'est vraiment quelque chose qui travaille ce cinéma. Le thème du temps et le thème qui l'accompagne et le thème voisin de la transmission. C'est, la transmission, c'est vraiment là aussi un des grands thèmes. On le voit dans Quiconque Man, où il va à Nashville, je crois, pour essayer d'enregistrer ce disque, et il emmène son neveu à qui il va faire une sorte de voyage initiatique. Neveu qui est joué en fait par le propre fils d'Eastwood, que dans une scène assez drôle, il emmène pour la première fois, pardon aux éditeurs de Radio Courtoisie, qu'il emmène pour la première fois au bordel, ce qui est quand même assez étonnant de tourner scène avec son fils.
Ça rate avec son fils, parce que tu vois que c'est des tournées des femmes ensuite. Mais par contre, son fils
et on voit
est devenu
même...
musicien.
Et son fils est devenu musicien.
Dans la vraie vie, je veux dire. Et puis il a même composé...
Tout à fait, il a composé pour son père. On voit ça aussi dans un film qui est a priori une sorte de thriller, qui est Un Monde Parfait, où un gangster en cavale, qui est Kevin Costner, prend en otage un petit gamin qui a été élevé dans une famille, je crois, de mormons, extrêmement rigoriste, et pour qui cette prise en otage va être une forme de libération et en tout cas d'initiation très 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 puissante. Il y a évidemment Million Dollar Baby, où l'entraîneur de boxe va trouver dans la boxeuse qu'il entraîne une fille de substitution pour remplacer la vraie avec qui malheureusement il est brouillé depuis des années. Enfin voilà. Et c'est lié aussi évidemment à la vie privée d'Eastwood, qui reconnaît volontiers, qui a été marié un certain nombre de fois, qui a eu des enfants de différents lits, et qui reconnaît volontiers, même s'il a collaboré souvent avec ses enfants, qu'il n'a pas été un père exemplaire. Et je pense qu'il y a quelque chose de cette culpabilité dans son cinéma qui le rend aussi touchant et intéressant.
Marc Aurion.
Oui, vous l'avez dit, Eastwood a abordé beaucoup de genres, quasiment tous les genres, mais il y en a un qu'il n'a jamais abordé. C'est le cinéma fantastique, cinéma d'horreur, qui est pourtant un cinéma typiquement américain. Alors j'ai entendu dire qu'il avait un projet à une époque de faire un remake de La Maison du Diable de Robert Wise, qui ne s'est jamais fait. Alors pourquoi, selon vous, en fait, ce renoncement?
Je ne sais pas. Je pense que d'abord, qui pense cinéma fantastique pense souvent effets spéciaux. Et je pense que c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup Eastwood, qui aime un cinéma plus organique et plus simple et plus naturel. Moi, personnellement, ce cinéma fantastique m'intéresse assez peu, parce qu'il repose sur des ressorts qui sont des ressorts scénaristiques et des ressorts de mise en scène qui peuvent être tout à fait passionnants, comme évidemment La Féline ou des chefs-d'œuvre du genre. Mais globalement, c'est quand même un genre qui laisse assez peu de place à la dimension humaine des récits, pour moi.
Et alors, question subsidiaire, est-ce qu'il y a, selon vous, dans son œuvre profuse, une anomalie, un film anomalie, quelque chose qui se démarque vraiment par son thème ou son rapport à la mise en scène ou...
Il y a des films ratés, bon, ça je sais pas si c'est votre question, mais des films qui sont pas à la hauteur du reste. Et,
je pensais plutôt à un film qui vraiment se démarque. Moi, je pensais à Miss Escrivá, qui pour moi est très particulier dans son œuvre, parce que c'est peut-être le plus sombre déjà.
C'est le plus sombre, mais en même temps, je trouve qu'il creuse des thèmes qui sont présents dans beaucoup d'autres œuvres. Pour moi, le plus étonnant peut-être, même si c'est pas le film le plus réussi, c'est Lettres d'Iwo Jima, c'est-à-dire que avant Clint Eastwood, et on n'attendait pas ça de Clint Eastwood, personne n'avait tourné le même événement du point de vue américain et du point de vue japonais. Et d'ailleurs, le film réalisé du point de vue japonais, à mon avis, est très supérieur à celui du point de vue américain. Et je pense que c'était assez audacieux.
Alors, il y a, on l'avait dit, il tourne beaucoup, rapidement, il ne s'embarrasse pas en effet d'artifice, on se rappelle évidemment de la poupée dans American Sniper qui était censée être un bébé, donc il y a des choses qui se voient, et ce n'est pas grave chez lui. Est-ce
on préférerait
étonnant,
que ça ne se voit pas quand même. Mais
oui,
bon.
Mais il s'en fout. Voilà.
Il s'en fout.
Il s'en fout, ça avance.
Il y a un
avance,
côté désinvolte, oui.
Et en même temps, je vous l'avais dit, il n'est pas scénariste. Et donc on se dit comment un cinéaste qui tourne aussi rapidement, qui ne s'embarrasse pas de savoir si un plan de mérite d'être fait, si il faut qu'on voit un peu moins bien l'artifice ou si il faut rajouter un peu d'effet de CGI comme on dit, et qui n'écrit pas lui-même ses films, comment il arrive à chaque fois à tirer quelque chose alors, toujours 80% réussi.
Ouais, ouais. Je pense d'abord que les cinéastes procèdent beaucoup par élimination. Quand vous êtes une star gigantesque comme Eastwood, vous recevez des monceaux de scénarios et donc ça vous permet non seulement d'en trouver plus facilement que d'autres cinéastes des bons, mais en plus ça vous permet plus facilement d'en trouver qui correspondent à ce que vous avez l'habitude d'exprimer. Et on voit très bien dans certains films d'Eastwood que le scénariste l'a écrit en pensant à Eastwood et ne l'aurait pas proposé principalement à quelqu'un d'autre. Il est assez rare d'ailleurs que Eastwood dans sa carrière ait repris des scénarios qui étaient initialement prévus pour d'autres cinéastes. Après, je pense qu'effectivement, il y a un travail comme pouvait le faire certainement John Ford, qui tournait lui alors parfois 4 ou 5 films par an, hein, mais qui devait passer à chaque fois quelques jours sérieux ou quelques semaines peut-être sur le scénario pour par petites touches, le personnaliser. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait, en tout cas dans cette usine hollywoodienne où plus que dans le cinéma européen et surtout français, les films sont des œuvres collectives. Je pense que c'est la marque des très grands. Je reviens sur la question précédente de Marc parce que j'avais pensé à quelque chose. Il y a un film qui est vraiment très étonnant pour moi dans la filmographie d'Eastwood et qui malheureusement est totalement ratée, c'est Hereafter, où il s'est penché sur cette question dont je vous ai dit tout à l'heure, et donc je me trompais, qu'elle ne l'intéressait pas, qui est la question de l'au-delà, mais il le fait avec un scénario totalement catastrophique et des acteurs qui ne sont pas à leur meilleur. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi le film dans lequel Cécile de France a la coupe de cheveux la plus atroce, ce qui est quand même un défi parce que c'est quand même une des actrices les plus mal coiffées au monde alors que c'est une très belle femme.
Là, il y a quelque chose de quand on regarde sa carrière, alors à fin des années 80, disons que même s'il est efficace et même globalement il fait rentrer les studios dans ses frais, parfois il leur fait même gagner beaucoup d'argent, on se méfie de lui. Après Chasseur blanc, cœur noir, on commence à se méfier de lui. Et là, il répond, alors il y a la relève entre-temps, mais il répond coup sur coup, avec, en même pas 3 ans, Impitoyable, Un monde parfait, oui. Sur la route de Madison.
Oui.
Et là, on se dit que c'est quand même, il se passe quelque chose.
Oui, oui. Et quand je disais que tout à l'heure qu'il faisait souvent un film contre le précédent, c'est vrai aussi pour les différences de qualité. Et c'est très net pour le dernier, Juré numéro 2, qui n'est pas un de ses grands chefs-d'œuvre, mais qui est un très bon film avec un scénario très solide, et je crois qu'il l'a fait parce que le précédent qui s'appelait Cry Macho était d'une faiblesse assez indigne de lui, et qu'il a rassemblé ses dernières forces en se disant je ne peux pas terminer ma carrière là-dessus, c'est pas possible, faisons quelque chose de plus solide et de plus sérieux. Mais c'est vrai qu'il a su toujours rebondir, ce qui par ailleurs est assez là aussi courant dans la carrière des grands cinéastes, c'est-à-dire que quand ils font un flop, ils savent très bien sur quel genre de projet rebondir et rassurer les producteurs.
Il y a un autre thème qui est très important chez lui, alors moins dans sa filmo, parce que de mémoire je crois qu'il y a 2 films, vous avez parlé de Honky Tonk Man, ce chanteur de country tuberculeux, mais c'est la musique, parce que Eastwood lui-même
compose,
il est pianiste, il a une appétence pour le jazz, et il a fait Bird, qui est d'ailleurs un film formellement assez différent de ses films habituels sur, je ne sais plus comment il s'appelle ce jazzman, Charlie Parker. Voilà.
On peut même en ajouter un troisième parce qu'il a fait l'un des films d'une série documentaire sur le jazz qui doit s'appeler Souffert de ma part Piano Blues, je crois. Parce que le jazz
Piano Blues, oui, 2000 ans.
Et qui est un excellent documentaire. Et d'ailleurs, dès son premier film, dont nous avons parlé, qui était donc un frisson dans la nuit, il se paye une espèce de vagabondage tout à fait audacieux pour un premier film. C'est que tout à coup, le personnage, sans raison aucune, va assister au festival de jazz de Monterey. Et on a 3 minutes où Eastwood se contente de filmer de manière absolument remarquable, d'ailleurs, le dit festival de jazz. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a compté beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup Bird parce que je trouve que c'est un peu le film cliché sur le biographisme, comme aimait à dire Marc, cliché sur le musicien qui brûle sa vie par les deux bouts et le génie forcément fracassé et forcément qui met sa vie en l'air. Et ce que je trouve intéressant, en revanche, dans la musique d'Eastwood, c'est qu'elle ressemble au reste de son cinéma, c'est que c'est une musique très discrète, qui ne se remarque pas, qui est vraiment une musique parfois minimaliste. C'est pas du tout les grosses nappes de mélasse hollywoodienne. C'est toujours très pudique, très, très réservé. Et je trouve que ça ajoute énormément à la qualité de son cinéma.
Il chante d'ailleurs, et donc Tonkman.
Il chante, oui.
Et même dans la chanson Grand Torino, alors c'est pas lui sur le band original, mais il a refait un single, comme on dit. Oui, pour le coup, il chantait en piano-voix.
Oui, et c'est intéressant de l'entendre dans Tonkman parce qu'il joue le rôle d'un chanteur tuberculeux. Et donc, là encore, sa voix, qui n'est pas une voix du tout puissante, qui n'est pas du tout un organe de ténor, colle parfaitement avec ce rôle de type un peu à bout de souffle.
Marc Aubrégon.
Quel est son rapport finalement selon vous au pays? Parce que c'est vrai que c'est un cinéaste qui a longtemps été conçu comme un républicain, comme un patriote, etc. Et pourtant beaucoup de ses films apportent une nuance, voire une zone grise dans ce constat. Quel est son rapport au final à l'Amérique? Je sais qu'il a une phrase assez belle où il disait, grosso modo, il disait l'Amérique est un pays de dingue inventé par un fou.
Et bah oui, je pense que c'est peut-être pour cette raison-là d'ailleurs qu'il est patriote, parce que c'est incontestablement quelqu'un de sensibilité républicaine et quelqu'un de très patriote. En même temps, c'est le contraire d'un idéologue, c'est le contraire d'un dogmatique. Je pense que... Alors, j'aime pas mettre des étiquettes sur ce genre de personnage, mais si on devait le rattacher à un courant, ce serait probablement le courant libertarien. Je pense que c'est un peu cette droite, laissez-nous vivre et foutez-nous la paix. En même temps, il y a dans son cinéma un éloge très très net des valeurs les plus traditionnelles, de courage, de fidélité à soi-même et aux autres, de solidarité. On le voit remarquablement dans Bronco Billy. Et c'est très intéressant parce qu'il réussit dans le même film à magnifier ses valeurs tout en les moquant un peu, leur côté, en moquant leur côté un peu préchi-précha, mais en même temps, c'est les valeurs d'après lesquelles a vécu ce personnage et qui l'ont rendu heureux. Il y a cette scène finale absolument génial, où donc ça se termine par une représentation du cirque où Bronco Billy joue le rôle du cow-boy, et il s'adresse au jeune public qui est constitué majoritairement d'enfants, et il leur fait une espèce de petit sermon à la fois ridicule et sublime en disant « Terminez toujours votre bol de céréales le matin, obéissez à vos parents parce que ce sont eux qui savent ce qui est bon pour vous, deux, trois autres préceptes comme ça », et c'est à la fois ridicule, c'est en même temps fondamentalement sain, et c'est très touchant.
Il y a, j'ai oublié dans les films de musique, Jersey Boy, qui était son dernier film sur...
Oui, on peut l'oublier parce que c'était franchement un film oubliable.
Oui, mais bon, je suis honnête et neutre et objectif comme France Inter, donc je dis, c'est sans point de vue. Il y a, vous l'avez un peu évoqué au début, il y a comme thématique et surtout dans sa dernière partie, la question de l'héroïsme et comment l'Amérique mythifie, crée des mythes et puis les détruit également. On peut citer, alors il y a eu American Sniper évidemment, mais il y a Sully, il y a eu l'affaire Richard Jewell,
ouais.
Et puis le 15h17, film étrange pour Paris,
complètement raté.
Oubliable également,
pas d'acteur, on sait pas qui l'a écrit,
pas de scénario,
filmé, on sait pas trop comment, mais en tout cas la question du héros et comment un héros est construit, mythifié et puis démythifié, puis je me rappelle dans l'affaire Richard Jewell, il
est accusé d'être le coupable.
Et non, puis il a des personnages qu'il aime vraiment pas, notamment une jeune femme, le cinéaste Eastwood, lui, voilà, l'aménage pas.
Oui. C'est vrai que c'est un des intérêts du cinéma d'Eastwood, c'est qu'il interroge cette question de l'héroïsme. C'est toute l'histoire d'ailleurs du premier volet, malheureusement assez pâteux par son scénario de ce diptyque sur Iwo Jima, où c'est l'histoire en fait des 5 soldats qui ont été choisis un peu au hasard pour poser sur la photo du drapeau planté sur cette île reconquise sur les Japonais et qu'on va transformer en héros alors qu'en fait ils se sont juste contentés d'être là au bon moment et qui évidemment vivent ça très mal. La leçon, je pense, d'Eastwood, son point de vue sur la question, c'est que il y a des héros évident comme l'inspecteur Harry, mais qui ne fait pas ça d'ailleurs par goût de l'héroïsme. Et puis il y a aussi surtout ce qu'on oublie, et c'est ce qui l'intéresse le plus, c'est les héros discrets, ceux qui ressemblent pas à des héros. Et c'est surtout effectivement cette figure de héros atypique et presque invraisemblable, incarné dans l'affaire Richard Jewell par cet acteur un peu obèse, qui ressemble pas à grand chose, qui vit chez sa maman, et qui se trouve effectivement non seulement être un héros, mais être un héros parce qu'en fait, malgré son aspect quotidien et sa banalité, sa trivialité, il a toujours été hanté par cette question d'héroïsme. Et en fait, le désir d'héroïsme aussi est un vrai sujet chez Eastwood.
Marc, une dernière question, il nous reste une minute.
Oui, on sait qu'Eastwood a traversé vraiment tout un pan du cinéma américain. Quel était son rapport avec le nouvel Hollywood? Parce que finalement, il l'a vu émerger. Est-ce qu'on sait un peu comment il a perçu ce mouvement?
Non, je pense que je n'en sais pas grand-chose. Il a évidemment été marqué par certaines modes esthétiques propres à cette époque. Je parlais du côté vagabond des films de cette époque. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment un franc-tireur, y compris cinématographiquement, et qu'on ne peut pas le rattacher d'aucune façon à une école.
Il n'est pas récupérable. Merci beaucoup, Laurent Nandrieux.
Merci
à vous. Je rappelle Frédéric Magellan qui est venu en première partie pour son livre Les chemises noires au brassard arc-en-ciel. J'arrive pas à voir la caméra, elle est ici. Le sport à l'épreuve des idéologies, vous l'aurez compris de quoi on parle, aussi bien des États que des lobbies, que de l'islamisme, que tout ça. Et donc, Laurent Nandrieux, je rappelle votre dernier livre qui est sorti, c'est l'entretien avec Mathieu Boccoté, Le pessimiste joyeux chez Fayard, et puis évidemment, la cinémathèque idéale à voir impérativement dans sa bibliothèque pour choisir les bons
Critérion.
Films. Critérion, voilà. Et chers amis, nous on se retrouve la semaine prochaine, demain c'est Marc Hainaut qui sera à ce micro. De Valeurs Actuelles, et vendredi, ça sera Marc Baudrier. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant !